Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Casse-Bulle, où nous allons parler d'une part de promenade, d'autre part de travail. De promenade parce que hier nous étions le 1er mai et de travail parce que aujourd'hui nous sommes le 2 mai et que hier, évidemment, certains ont travaillé comme aujourd'hui et que, bien sûr, le 1er mai est une pomme de discorde et donc il est bien normal que nous le saluions. Tout à la fois en expliquant que certains veulent travailler et ils ont bien raison, et que d'autres veulent se reposer et qu'ils ont bien raison. Voilà. Donc, nous ne prendrons pas parti, bien au contraire, et c'est hardiment que nous ne trancherons absolument pas. Nous commencerons par nous promener avec deux auteurs de bande dessinée assez aimables. L'un est François Ayrol, l'autre est Tronchet. Tronchet, ça fait plusieurs fois que nous en parlons dans cette émission. C'est un auteur de bande dessinée qui a commencé dans la Galéjade, dans le comique. On se souvient de ses albums, soit qu'il scénarisait d'ailleurs, soit qu'il dessinait et scénarisait en même temps. Et voilà. Donc au début, c'était Jean-Claude Tergal et la série des Poissards. Mais peu à peu, en fait, il y a un virage qui s'effectue chez Tronchet, et Tronchet devient un auteur entre guillemets sérieux, un auteur qui commence à raconter tout à fait autre chose. Il est loin le temps de Houpland, ou plutôt en 97 justement, quand Houpland paraît, une histoire un peu vrillée de Père Noël. On se rend compte qu'il a autre chose à dire. Et donc peu à peu, voilà notre Tronchet qui se lance dans son histoire à lui-même. Le chanteur perdu en 2020, le cahier spirale, et en fait qui révèle d'abord une capacité à être véritablement déprimé, comme un bon auteur de bande dessinée franco-belge, et ensuite évidemment une capacité de sensibilité, d'émotion, d'attention aux détails et aux choses qui est tout à fait aimable. Et justement, Delcourt vient de lancer une collection, enfin on pourrait croire qu'il s'agit d'une collection, puisque les deux premiers tomes, en tout cas de ce qui pourrait être une collection piétonnière, viennent de sortir. Et dans cette collection Le Piéton, il y a Le Piéton de Bordeaux par François Ayrol et Le Piéton de Lyon par Tronchet. Alors, l'idée de cette collection est assez simple. On lâche un auteur de bande dessinée dans les rues et on lui demande de raconter ce qu'il voit. Et il décrit effectivement par le menu l'ensemble des choses qu'il aperçoit. Il dessine évidemment ce qu'il aperçoit. Et c'est plutôt aimable. En tout cas, pour l'album de Tronchet, on voyage dans Lyon, il y a des plans très régulièrement, on est capable de se repérer exactement. Le personnage de Tronchet, qui ne ressemble un peu à rien, avec un cartable et un polo rayé, est à la fois Tronchet enfant, mais aussi Tronchet adulte. Et donc, le voilà qui nous emmène dans un Lyon évidemment aimable, rempli de traboules, d'églises, de monuments, de pavés, de souvenirs. Et il mélange bien sûr le Lyon célèbre, le Lyon des Beaux-Arts, mais aussi le Lyon actuel, le Lyon de la modernité, avec ses passerelles torturées, ses références un peu aberrantes, ses boutiques branchouilles. Et le résultat est. Comment dire, à mi-chemin entre réussi et inutile. On voit bien effectivement tout l'intérêt qu'il y a à lâcher un bon auteur de bande dessinée dans une ville. Le fait que ça ressemble quasiment à une commande comment dire, d'un syndicat d'initiative enlève sans doute un petit peu à la spontanéité. Peut-être que cette collection Le Piéton mériterait de se développer sur plusieurs albums et d'être à ce moment-là revu et corrigé. En tout cas, nous réviserions et corrigerions notre jugement. On est au plus près de ce qu'un piéton pense et voit, et on est un peu loin de ce que la bande dessinée est capable d'apporter. Notamment, évidemment, ce piéton qui marche dans les rues s'interdit de rentrer dans les maisons. Ce piéton qui marche dans les rues n'est pas capable de traverser et de traverser les murs. Alors, il traverse un peu le temps, et donc on verra que François Ayrol, comme Tronchet, mélange bien sûr les souvenirs, mélange les époques. Mais on reste encore platement collé au plan. Et donc, on sent bien que l'idée est presque que quelqu'un d'autre puisse prendre l'album en question et reparcourir ce que fait Tronchet ou ce que fera Ayrol. pour mettre ses pas véritablement pied à pied de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la rue Mourguet et son minuscule café-théâtre. Je suis en train de lire le communiqué de presse. Et on est dans une bande dessinée un peu sage. Et alors que Tronchet, justement, avec sa capacité à être onirique, son goût pour une certaine tristesse, sa manière de basculer volontiers dans le réalisme fantastique, aurait été capable, à mon sens, de révéler plus et mieux de Lyon et de faire en sorte de convoquer beaucoup plus de fantômes dans son histoire pour donner à cette pérégrination un côté un peu moins sage, un côté un peu moins appliqué, un côté un peu moins beaux-arts, en fait, et un côté plus fou et sans doute plus vrai dans la révélation de la personnalité de Lyon. Cela dit, voilà, le dessin est remarquablement clair. Les amoureux de Lyon s'y retrouveront. Comment s'appelle les lieux qu'il choisit sont raisonnablement emblématiques. On sent qu'il y a un parcours effectivement bien vu, même si voilà le côté syndicat d'initiative nuit un peu à l'ensemble. François Ayrault, de son côté, parcourt Bordeaux. François Ayrault, c'est un auteur beaucoup plus intello, qui est un auteur qu'on a connu d'abord et avant tout aux éditions de l'association où il a publié plusieurs albums vraiment remarquables, c'est-à-dire d'une manière un peu surprenante, mais peut-être est-ce la volonté de François Ayrault. Les éditions Glénat ne donnent pas la liste des œuvres de François Ayrault, et c'est bien dommage, puisqu'il a, par exemple, sorti chez Les Amis aux éditions de l'association, mais aussi d'autres livres qui, à chaque fois, jouent sur les relations sociales, le vocabulaire, le langage, la manière dont les penseurs, par exemple, la manière dont la bande dessinée est capable de représenter des flux immatériels de la pensée et a inventé le phylactère et ses innombrables déclinaisons pour être capable de représenter la parole. C'est quelqu'un qui, François Ayrault, donc, a véritablement un goût conceptuel pour raconter la vie de tous les jours et nous raconter nous-mêmes toujours un peu à côté de la plaque, en tout cas n'étant pas absolument certain de ce que nous avons entendu, ni véritablement assuré de ce que nous avons dit ou de ce que nous pourrions dire. Dans Le Piéton de Bordeaux, on retrouve les mêmes qualités et peut-être un peu les mêmes défauts que dans Le Piéton de Lyon, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un album assez appliqué dans le dessin, assez comment dire, exhaustif dans les lieux manifestés. Voilà, donc par exemple, parcours neuf des Quinconces au Chartron. Donc et on part de la place des Quinconces. Il y a comme ça 16 points d'intérêt, 4 bourses maritimes, 12 cours de la Martinique, 16 place Saint-Martial, et qui permettent de faire une promenade et donc de passer peu à peu dans le. Au gré des rues, des parcs, dans une bourgade qui est une grande ville et dont on nous dit à quel point, bien sûr, elle a été transformée, et transformée pour le mieux, bien sûr, par une modernité un peu ravageuse, à mon sens, avec donc des focus sur les autocollants gauchistes, des focus sur des boutiques un peu inutiles et surtout. Une espèce d'amour, bien sûr, de l'architecture contemporaine qui est très très bien traitée, autant d'ailleurs que l'architecture plus ancienne, et donc on a droit à 18e, 19e, 20e, 21e, tout ça aligné un peu sur le même plan. Et on sent, comment dire, François Ayrault très sensible au passé, bien sûr, au fait de raconter ce qui s'est passé dans telle ou telle rue, de mettre en avant la manière dont. Il y a une mémoire, bien sûr, des lieux bordelais qui transparaît, mais il y a aussi, comment dire, une espèce d'effacement de cette mémoire, une espèce de mutation avec cette modernité un peu ravageuse et un peu ravageante, le goût d'une, comment dire, d'une nostalgie immédiate, pour ainsi dire. Par exemple, il passe dans les rues, et il est en train de nous raconter comment, autour de Saint-André, il se passe mille choses, depuis l'hôtel Rouen, en passant par la rue des Airs, la chapelle Saint-Joseph, la rue Vital-Carle, etc. Et il nous dit, par exemple, que une rare maison à colombage du XVIe siècle, voisine avec une boutique à la devanture très 70s, à l'origine, c'était un salon de coiffure. Et voilà, le pittoresque, si j'ose dire, des années 70s est en train de se hausser au même niveau que la maison du XVIe siècle. La beauté d'un ancien édifice et les traces d'une utopie consumériste disparue sont presque mises sur le même pied. Et ainsi, on a une promenade où tout est mis au même niveau, où tout nous est indiqué, et avec de temps en temps des petites échappées un peu absurdes, comme François Ayrol est capable d'en faire, notamment à un moment donné où un personnage qui ressemble à un personnage de Sempé court dans les rues en scandant les noms des albums que Sempé a dessinés. C'est évidemment au moment où il passe à côté de la construction du groupe scolaire Jean-Jacques Sempé, bâtiment à énergie positive. Il y a chez Ayrol une espèce d'ironie, bien sûr, à traquer la modernité, mais là, cette ironie, il l'a, comment dire, il l'a fait sentir d'une manière un peu pesante, ou au contraire, d'une manière un peu trop allusive. Au lieu qu'il bascule dans une absurdité qui aurait pu être possible, et là aussi, on sent que la commande n'est pas d'être véritablement soi-même, la commande est d'être au service d'une promenade. Donc pour ceux qui aiment Bordeaux, ou pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, qui aimeraient envie de le découvrir, eh bien le piéton de Bordeaux, de François Ayrol, comme le piéton de Lyon, de Tronchet, est une manière de rentrer dans la ville, mais pas véritablement une manière de rentrer dans la manière propre de chaque auteur. Donc je conseille évidemment François Ayrol, toute l'œuvre de François Ayrol, qui est véritablement amusante, originale, et même ses ratés, si j'ose dire, ont de véritables mérites. Cela dit, voilà, la plupart de ses albums publiés à l'association sont sans défaut, d'un humour subtil, mais véritablement intéressant, une autre manière de représenter les choses. Voilà, le Piton de Bordeaux, on reste peut-être un peu en dessous de la découverte de l'auteur, et je ne sais pas si Bordeaux, on le découvre de la meilleure des manières grâce à Ayrol, même si, une fois de plus, le côté catalogue urbanistique, le côté dépliant touristique est particulièrement réussi. C'est le moment de vous dire que vous êtes sur Radio Courtoisie et que, bien sûr, puisque vous êtes sur Radio Courtoisie, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, tout canaux confondus, et que ce 1,5 million, c'est une performance. Donc, d'une part, évidemment, nous tous, patrons d'émission, nous vous remercions de votre écoute, de votre fidélité. Les plus vieux comme les plus jeunes, ceux qui nous écoutent depuis très longtemps comme ceux qui viennent de nous découvrir. Mais que vous êtes uniquement quelques milliers à nous donner justement de quoi poursuivre triomphalement vers nos 40 ans, ce sera l'année prochaine. Eh bien, n'hésitez pas, soyez quelques-uns de plus à nous donner. C'est assez simple, vous allez sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, et là, vous trouvez un formulaire de don. Le don peut être modeste, 2 euros, 5 euros, 6, allez, 10, tout fait ventre et tout sera bien. Mais voilà, pourvu que vous puissiez donner et partager, bien sûr, partager vos enthousiasmes et faire en sorte de relayer ces émissions que vous trouvez systématiquement sur le site rc.fr une fois qu'elles ont été diffusées. Et pour celles qui sont enregistrées, vous les trouvez sur les chaînes YouTube de Ligne Droite et de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Et pour ceux qui seraient réticents à l'idée de donner en ligne, eh bien, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, eh bien, nous acceptons évidemment l'échec. Il est temps de rentrer dans la partie un peu plus travailleuse, si j'ose dire, de cette émission, après avoir flâné le 1er mai grâce à François Ayrol et à Didier Tronchet. Nous voilà partis pour le Japon et aussi la Californie. Alors, le Japon, nous y partons avec un manga qui date un peu, mais qui est vraiment intéressant. C'est le manga de Kazuto Tatsuta, Au cœur de Fukushima, journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. Alors, sous ce titre absolument alléchant, se cache donc une bande dessinée qui a été produite en 2014 et qui a été traduite en français en 2016. Et Kazuto Tatsuta, en fait, s'est engagé à un moment donné pour nettoyer Fukushima. Et donc, il y avait ce vaste chantier de la décontamination de Fukushima, accident non pas nucléaire, mais accident naturel. Donc Fukushima, cette centrale ravagée par un tsunami. Je rappelle que, comme Fabien Bouglé le rappelait il y a quelques jours à l'antenne, puisque nous y parlions des 40 ans de Tchernobyl, que la centrale qui est nucléaire, ou plutôt les réacteurs qui étaient juste de l'autre côté de la ligne de Montebello, marchaient très bien, et que donc le problème de Fukushima est beaucoup plus le problème des tsunamis que le problème de l'industrie nucléaire. Bon, ceci posé, on est complètement à côté du sujet. Le sujet, c'est cette manière admirable qu'ont les Japonais de détailler les choses. Dans la manière dont on nous raconte la présence de ce personnage qui s'engage, alors non pas parce qu'il tient absolument à être un décontaminateur de centrales nucléaires, c'est juste parce qu'il y a du travail et qu'il en cherche. Il y a l'exposé le plus minutieux qui soit de tous les détails. On a l'organisation du sas de décontamination. On a l'ensemble des protocoles qui permettent de s'habiller ou de ne pas s'habiller. On a, bien sûr, les plans réguliers de la centrale, de ses abords, du chantier. Et on rentre au fur et à mesure des trois tomes qui constituent cette histoire dans le quotidien le plus scrupuleusement décrit, et là, c'est une description qui est non seulement dans le scénario, avec cette espèce de lenteur, d'ailleurs, propre au manga japonais, où, à force justement de considérer que n'importe quel instant passé dans une histoire est presque aussi important que le suivant, c'est comme si je me proposais de vous raconter un combat au sabre entre deux champions et que je passais 24 heures à vous montrer comment est-ce que les gens se lèvent, comment ils prennent leur petit déjeuner, comment ils aiguisent leur sabre. J'en profite d'ailleurs pour faire un encadré sur la manière dont on forge les sabres, comment ils s'habillent. J'en profite pour faire un encadré sur la manière dont on tisse les kimonos. Là, c'est exactement la même chose. Chaque fois qu'on a besoin d'expliquer le pourquoi du comment, d'expliquer comment marche un appareil, pourquoi est-ce que tel type de décision a été prise, quel a été l'impact de ce tsunami et quelles en ont été les conséquences pratiques à la fois pour Fukushima et ses environs, mais aussi pour la manière de décontaminer, eh bien, on s'installe dans le récit. On a des gros plans sur la manière dont j'enfile le masque, la manière dont je ramasse les différents déchets, la manière dont les réunions de briefing et de débriefing se passent. Et comme ça, donc le premier tome fait quasiment 200 pages. Et si j'arrive à la fin du troisième tome, je suis aussi avec 170 pages qui décrivent là, toujours comment peu à peu donc le nommé Kazuto Tatsuta progresse dans la décontamination, comment est-ce que ses camarades vivent la chose, comment s'organisent leurs loisirs et leurs repas. On est fasciné par cette espèce de glorification naturaliste d'un métier qui, pour le coup, est absolument dépourvu de tout romantisme possible. Ce n'est pas un ingénieur nucléaire, ce n'est pas quelqu'un qui plonge au cœur d'un réacteur en fusion pour essayer d'en maîtriser la combustion devenue folle. Non, non, c'est quelqu'un qui nettoie une zone industrielle dévastée et qu'il fait avec un luxe de précaution extraordinaire pour éviter l'irradiation. Donc, c'est en même temps, voilà, une espèce de leçons de civilisation et de culture japonaise. Alors, de civilisation, parce que, bien sûr, le respect de la hiérarchie, le respect de la règle, la manière dont toutes les choses s'organisent d'abord et avant tout comme une espèce de cérémonie sociale permanente est un aspect fascinant de ce manga. Donc, je redis, au cœur de Fukushima, journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. On a une. Donc, qui a été publié par les éditions Kana, autrement dit Dargaud le Lombard, c'est une manière de considérer la vie et la vie la plus modeste, enfin, me semble-t-il, et sans mépris aucun, évidemment, quelqu'un qui ramasse en permanence des débris de chantier et des débris de construction, voilà, remplit une fonction absolument utile, mais on n'est pas dans l'exaltation d'une vie consacrée à faire grandir son pays ou à révolutionner les arts. Ou à être. Voilà, donc, c'est un travailleur comme mille autres. Il n'y a pas ce côté misérabiliste qu'on peut trouver dans une partie de la littérature ouvrière. Il y a en revanche ce qu'on trouve aussi d'ailleurs dans la bande dessinée ouvrière, une exaltation des tâches simples qui est tout à fait aimable, mais voilà, avec enrobée dans non pas la révolte de l'individu et l'affirmation de soi-même malgré la grande machine du travail qui peut broyer les hommes, au contraire, dans l'exaltation du travail en commun. Alors, c'est exactement justement ce qui manque, cette exaltation du travail en commun, ou plutôt, ça ne manque pas, mais c'est un peu différent, dans comme convenu d'une autrice de bande dessinée, comme on ne devrait pas dire, qui est Laurel. Et Laurel a auto-édité les pages de son blog, et notamment ce qu'elle auto-édite, c'est l'histoire de la manière dont son mari et elle sont partis. Il y a quelques années, avant de revenir en France depuis, embauché par un créateur de bande dessinée, un créateur de jeux vidéo pour travailler au développement de jeux vidéo. Alors, le mari de Laurel est un développeur brillant, tout à fait efficace, et Laurel, elle, est une dessinatrice qui a déjà publié quelques albums. Bon, évidemment, elle est comme tous les auteurs de bande dessinée et les auteurs de littérature en général, ça ne suffit pas à nourrir son homme, donc elle a besoin de faire autre chose à côté. Et ce qu'elle fait, notamment, elle va dessiner l'intégralité du décor et des objets qui vont servir dans le nouveau jeu vidéo qui est en train d'être mis au point. Ce qui est remarquable, c'est que c'est un journal d'expatriation, c'est aussi un journal familial. Qu'est-ce que ça veut dire partir pour les États-Unis quand on habite en France? On a très concrètement, évidemment, le décalage culturel entre les manières de faire françaises et les manières américaines. Que signifie travailler pour une start-up? Est-ce véritablement aussi enthousiasmant qu'il y paraît? Eh bien, on se découvrira que non. Que signifie travailler pour l'industrie du jeu vidéo? Et donc, quels sont les rapports d'un studio indépendant avec les grandes plateformes qui permettent de distribuer les jeux? Que signifie en fait travailler pour un patron un peu mégalomane et d'une rare mauvaise foi et son associé quand on est les deux des chevilles ouvrières de cette petite entreprise? Comment faire en fait pour survivre d'un point de vue affectif et intellectuel quand on est en butte à la rapacité en fait de deux chefs qui sont prêts à s'approprier les idées des subalternes et surtout à les saboter parce que évidemment dans cette histoire totalement véridique Laurel et son mari développent des produits qui marchent pendant que le président et son associé développent des produits qui marchent moins bien et au lieu de se satisfaire d'avoir des employés qui réussissent à produire de bonnes choses, on se retrouve avec des employés qui produisent quelque chose qui est meilleur et donc il faut casser ce qui est meilleur pour promouvoir ce qui marche pas et donc ça devient un enjeu de pouvoir absolument aberrant. Et donc c'est aussi une bande dessinée sur le travail et le travail qui paraît de plus en plus inutile, le travail qui paraît de plus en plus fou, la manière dont tous les efforts paraissent être jetés dans le tonneau des Danaïdes de la mauvaise foi et de l'ambition dévoyée de deux patrons. Le blog est vraiment étonnant et surtout ce qui était amusant pour ceux qui le suivaient à l'époque, c'était la manière dont il y avait cette histoire vraie qui se déroulait sous nos yeux et qui, voilà, donc comme convenu et comme convenu d'eux, a commencé en 2017 à devenir une véritable histoire. Alors, Laurel est un trait très simple, très lisible. On comprend exactement pourquoi elle devait être excellente dans son jeu vidéo et dans la manière de dessiner des objets amusants, des animaux rigolos et personnages vidéoludiques un peu enfantins, mais en même temps addictifs, comme on dirait aujourd'hui. Et en même temps, une capacité d'observation pour raconter toutes les histoires avec un détail qui a son importance ou pas. C'est comme si c'était des planches qui paraissaient donc en blog. Il y a systématiquement quatre cases, ou plutôt il y a quatre dessins. On voit bien, les cases sont virtuelles car les traits sont rarement, pour ainsi dire, jamais dessinés, qui permettent d'avancer planche après planche dans la découverte des personnages. Et donc, on devient très proche, puisque donc Laurel écrivait au fur et à mesure, on devient très proche de Laurel, de son mari, des enfants, du premier puis du second qui va arriver. Évidemment, on se prend à détester totalement les patrons méchants et on assiste surtout à la réussite et à l'échec d'une ambition, celle dans les jeux vidéo. Voilà, c'était une autre manière de célébrer le 1er mai dans un pays qui ne le connaît pas, justement les États-Unis, même si c'est de là qu'est partie la mode du 1er mai qui a envahi une bonne partie des pays industrialisés et travailleurs. Je rappelle les piétons de Bordeaux de François, le piéton de Bordeaux de François Ayrol et le piéton de Lyon de Didier Tronchet, comme convenu de Laurel, et vous pouvez le trouver sur le blog de Laurel, donc Laurel, LAURL, et enfin au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta. Et voilà la manière dont nous avons pu célébrer ensemble le 1er mai et le 2 mai, ceux qui ont travaillé et ceux qui ne travaillent pas, et merci d'ailleurs à tous les techniciens de Radio Courtoisie de permettre, hier comme aujourd'hui, d'être à l'antenne et de vous offrir ces centaines d'heures, jour après jour, ces milliers d'heures, année après année, qui nous permettent de nous réunir par les ondes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.